Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture en direct jusqu'à 20h30. En ce début d'année, nous allons consacrer notre première émission 2019 à l'agenda, des industries culturelles, des médias et du numérique. Quels sont les grands rendez-vous à venir pour cette année, les grands débats, les grandes lois en préparation aussi, à la fois au niveau national, européen, mais aussi international, avec le G7 qui aura lieu en France à Biarritz en août prochain. La France prenant la présidence du G7 cette année. Un mini-sommet numérique aura d'ailleurs lieu en France dans le cadre de ce G7, a priori. De cet agenda à la fois très politique et très technique, nous parlons ce soir avec Martin Hajdari, le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
C'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette émission. Merci d'être avec nous.
Merci d'être accueilli.
Avec vous, on reviendra sur le projet de loi audiovisuelle que votre direction générale au ministère de la Culture porte, les évolutions imaginées pour France Télévisions, Radio France et le CSA. On évoquera la transposition de la directive européenne SMA. C'est un peu technique, mais vous verrez, c'est passionnant. Les débats sur le droit d'auteur à Bruxelles et à Strasbourg, et s'agissant de la presse, puisque ça fait partie aussi de vos sujets à la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles au ministère de la Culture. On parlera de l'application de la loi dite Fake News, qui a été adoptée définitivement, la mise à jour de la loi Bichat, c'est une loi sur la distribution de la presse, Bichet, pardon. Et si on a le temps, on parlera aussi du Pass Culture et du Centre National de la Musique. Avec vous donc, Martin Hajdari, on va essayer de tracer les grandes lignes des principaux rendez-vous de l'agenda médias et industrie culturelle de l'année 2019. Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis, en seconde partie d'émission à 20h, l'invité innovation. Ce soir, vous recevez Zoé Sfez, Antonio Casilli.
Sociologue qui vient de publier cette semaine un excellent ouvrage baptisé En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. C'est une enquête sociologique absolument fascinante. Avec ce constat, l'essor des intelligences artificielles nous fait fantasmer, nous pousse à imaginer la disparition du travail. Eh bien, Antonio Casilli nous dit qu'il y a toujours du travail, même avec l'intelligence artificielle, que ce travail peut être fragmenté, souvent occulté, mais qu'il est bien toujours là.
Donc les robots vont bientôt disparaître.
Nous continuons à aider les robots. Les humains ont toujours un rôle à jouer.
On garde le pouvoir. 20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Huawei. Huawei, le géant des télécoms chinois qui a cristallisé ces dernières semaines les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. En d'autres termes, on va parler de la guerre commerciale et technologique entre les géants américains et chinois qui devraient nous occuper assez souvent cette année 2019. Voilà pour le sommaire de cette émission. Émission réalisée ce soir par Véronique Villa avec en régie d'Ali Yaha. Elle a été préparée, cette émission Soft Power de ce soir, par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez la suivre également sur Twitter, mot-clé Soft Power, ainsi que sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, en podcast, sur iTunes, sur Spotify et évidemment sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. On commence cette émission par deux premiers bilans culturels. L'un très positif, l'autre beaucoup moins. Bilan de l'année passée en matière de politique culturelle, à savoir la fréquentation culturelle du musée du Louvre. Et tout d'abord, pour commencer, Emmanuel Paquette, celle des salles de cinéma en 2018, une année en petite forme.
Oui, puisque le CNC, donc le Centre National du Cinéma, a publié ses chiffres pour l'année 2018. Alors, on atteint quand même plus de 200 millions de spectateurs dans les salles obscures. Alors, c'est une baisse de 4,25% par rapport à 2017. Alors, à cela, plusieurs raisons qui sont avancées par le Centre National du Cinéma. La première raison, ce serait la canicule de cet été, puisqu'effectivement, quand on regarde les mois de juin, juillet et août, on l'avait un petit peu évoqué dans une précédente émission ici, mais la chute est assez forte, puisque moins 94% de fréquentation au mois de juillet, moins 22%.
Lorsqu'il fait chaud, il y a la climatisation dans les cinémas, dans les salles de cinéma, c'est un argument.
Alors c'était un des arguments.
Également des sorties souvent.
Plutôt. Exactement. Et le troisième argument, effectivement, c'est la Coupe du Monde de football qui se déroulait également cet été et qui fait que les gens sont plutôt restés chez eux ou dans les bars ou à l'extérieur, mais en tout cas pas dans les salles de cinéma. Donc des chutes assez importantes, même de 9,9% au mois d'août, 22% au mois de juillet, 14% au mois de juin. Donc tout ça est une année qui enregistre un recul de 4,25%. Alors il reste quand même des chiffres relativement impressionnants, hein, puisque le numéro 1 des salles, c'est Les Indestructibles 2, donc le dessin animé de Pixar qui appartient à Disney, avec 5,8 millions d'entrées. Et puis derrière, des comédies françaises, Les Tuches 3 avec 5,7 millions d'entrées, La Ch'tite Famille avec 5,6 millions d'entrées. Et puis on revient chez Disney avec Avengers, Infinity Wars, donc avec 5,1 millions d'entrées. Et en cinquième position, Le Grand Bain avec 4,2 millions d'entrées. Alors l'autre bonne nouvelle, en tout cas celle qui est soulignée par le CNC, c'est que la part de marché des films français est aujourd'hui de 40%, ce qui est un des taux les plus élevés de ces dernières années, en tout cas depuis 2012. Et qu'en face de ça, le cinéma français, lui, n'affiche qu'un petit 45%, alors que d'habitude, on est plutôt autour de plus de 50%. Donc la faute à des blockbusters un peu moins présents dans les salles obscures, des blockbusters en tout cas américains, cette année. Il y en aura beaucoup plus en 2019, notamment avec Star Wars.
Man in Black, Toy Story 4,
Top Gun, Avengers qui revient,
Maverick, La Reine des Neiges 2, exactement. 3, 4,
ça,
5,
ça, c'est
6.
Disney. Le 2
et
pour l'instant. Donc voilà, et donc on peut se réjouir que le film français et le cinéma français se portent bien, mais ce sont essentiellement des comédies françaises.
Donc bref, quand le cinéma américain s'enrhume, c'est le cinéma français qui éternue, ou vice-versa.
Non, parce qu'en réalité, c'est quand il y a des comédies françaises, le cinéma français se porte bien. Quand il n'y a pas de comédies françaises, à ce moment-là, le cinéma américain enregistre la plus forte fréquentation en France.
Zoé Sfez.
Il nous faut plus de Tuches. Non, c'est pas vrai. Autre nouvelle, quand même beaucoup moins réjouissante pour ce groupe qui était censé être, qui est l'un des leaders européens et un gros acteur français. Je parle d'EuropaCorp, la firme de Luc Besson. On a appris jeudi que l'un des derniers films de Luc Besson, Anna, qui devait sortir en janvier, puis avait été repoussé pour une sortie en mars, est reporté sine die. Ce film ne sortira probablement pas. Tout ça s'inscrit dans un contexte où EuropaCorp, après l'échec monumental de Valérian, plus de 200 millions d'euros de dettes. Il a cédé, le groupe EuropaCorp a cédé ses activités de distribution. On l'a su à la fin de l'année, et donc il y avait un accord théorique avec Pathé, mais vraisemblablement il ne concernera pas tous les films, et en particulier pas celui de Luc Besson. Et puis, il a aussi cédé son studio Digital Factory au chinois South Bay. Il y a même des rumeurs qui courent, ça c'est absolument pas acté, un potentiel rachat, par exemple, du catalogue d'EuropaCorp par Netflix, qui fait évidemment beaucoup trembler. Donc il faudra voir si EuropaCorp 2019 pourrait être l'année de l'écroulement total d'EuropaCorp. Et puis je voulais dire un mot quand même, un petit retour sur Roma d'Alfonso Cuarón, le film qui a été vendu, survendu, comme l'un des films que vous savez, vous pouvez voir en France sur Netflix. Il est visible sur Netflix en France depuis le 14 décembre. C'est un film qui, en noir et blanc, un film d'une beauté formelle absolument phénoménale, et qui donc, en France, n'est pas visible sur grand écran. Je vous invite à lire un très beau papier publié par le rédacteur en chef de Slate sur les interrogations que ce film soulève sur les conditions de visionnage. Moi-même, je l'ai vu 3 fois. D'abord sur un petit écran d'ordi, puis sur une grande télévision, puis dans un rétro, avec cette espèce de quête indispensable pour pouvoir essayer de reproduire les conditions les plus proches du cinéma. En tout cas, Alfonso Cuarón continue lui-même de défendre l'idée que ce film soit sorti sur Netflix. Le film, il faut le rappeler, est sorti aussi en salle aux États-Unis pendant 3 semaines, ce qui n'est pas possible en France puisque c'était autorisé, ce qui va lui permettre d'être potentiellement sélectionné aux Oscars, on le saura bientôt. Alfonso Cuarón, qui vraisemblablement est l'une des seules personnes à avoir accès aux chiffres et qui se dit d'ores et déjà quand même déçu parce que le film n'aurait pas beaucoup été vu sur Netflix au Mexique.
En tout cas, juste au Mexique.
Juste au Mexique. On ne sait pas ce qu'il en est pour le reste. Mais enfin voilà, on va de plus en plus vers ce double modèle, puisqu'il y a les États-Unis, mais aussi l'Italie, le Canada, qui ont accepté cette double sortie, à la fois sur les écrans et sur le cinéma. La France a un modèle qui est le sien et sur lequel elle reste. Mais de plus en plus, il y a ce nouveau paradigme possible de distribution dans plusieurs autres pays qui comptent pour le cinéma.
Ce Second sujet ce soir dans l'actualité, les chiffres de fréquentation du musée du Louvre qui sont eux en forte hausse avec 10,2 millions d'entrées, forte hausse de 25% par rapport à 2017. Alors selon les comparaisons notamment publiées par le Figaro, le Louvre serait donc désormais le premier musée au monde en termes de fréquentation, assez loin devant le musée national de Chine qui comptait l'an dernier 8 millions d'entrées ou encore le Metropolitan Museum of Art de New York avec 7,3 millions aux
USA. Oui, et quand on regarde un petit peu les chiffres de ces visiteurs, on a 2,5 millions de Français, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup en réalité, 1,5 million d'Américains et un gros million de visiteurs qui sont chinois. Le reste, c'est d'autres nationalités. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 10 millions de visiteurs, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'entrées gratuites, puisque le Louvre explique aussi que grâce à l'argent qui est rentré, notamment grâce au Louvre Abu Dhabi, puisque vous savez qu'il y a une franchise qui lie le Louvre au ce Louvre Abu Dhabi, le Louvre a décidé de mettre en place de plus en plus d'opérations qui permettent à un public éloigné des musées de rentrer dans
notamment
le Louvre.
Notamment le samedi, ça s'est passé
et
hier.
Et notamment le samedi, voilà. Parmi les grands changements de politique qui sont destinés à continuer à attirer de nouveaux visiteurs, parce que c'est quand même ça la politique du Louvre, et en tout cas d'attirer des visiteurs qui ne peuvent pas ou qui ne viennent pas suffisamment au Louvre, notamment parce qu'ils l'imaginent bondé, eh bien il y a cette nouvelle initiative. Alors auparavant, rappelez-vous, le Louvre était ouvert le premier dimanche du mois, gratuitement, de octobre à mars, et maintenant il sera ouvert gratuitement en nocturne, le premier samedi du mois et toute l'année. Nocturne, c'est 18h-21h45, avec deux formules qui sont assez intéressantes. Donc, une formule, vous faites la queue pour l'aile Sully et l'aile Denon, qui sont les deux grandes ailes. Vous faites la queue, vous êtes là, vous passez. Alors, il y avait 1h30 de queue hier pour cette visite, disons, visite assez normale. Et puis sinon, il y a une visite de l'aile Richelieu. Cette fois-ci, c'est une visite presque VIP, une visite luxueuse. Pour le premier essai hier, eh bien, il y avait 3000 places donc gratuites
là,
qui sont parties quasiment en une heure.
Il fallait réserver sur Internet.
Réservé sur Internet, et là vous aviez le droit à une visite quasiment guidée avec jeu de piste, avec exploration de certains pavillons à la lampe torche, et une sensation pour certains visiteurs de privilèges, de luxe, tout ça gratuitement évidemment. Le premier essai était un peu chaotique au niveau de la visite sans réservation, mais globalement le Louvre est plutôt satisfait et indique que ces fameuses visites réservées de l'aile Richelieu, probablement on reverra le nombre de places à la hausse, ce sera peut-être plus 5000 que 3000.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors dernier élément dont parle le Louvre, c'est un clip vidéo, celui de Jay-Z et de Beyoncé. Vous savez, Ape Seed, dont on avait parlé justement dans l'émission, qui a été tourné au Louvre et qui a été vu plus de 147 millions de fois sur YouTube. Ça serait un des facteurs d'explication de la hausse de la fréquentation, notamment des Américains au Louvre. Et en tout cas, pour une fois, un clip américain de rap permet au Louvre d'atteindre des records de fréquentation historique.
Il faut dire qu'il était assez réussi, ce clip, en tout cas. Dans un instant, on va dérouler l'agenda numérique, média et industrie culturelle 2019 avec notre invité de ce soir, Martin Ajdari, le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité par une actualité musicale, cette semaine a été rendue publique, annoncée la programmation du célèbre festival de musique californien Coachella. On y retrouve, et c'est le point intéressant, 9 artistes français, une belle performance, même si la plupart d'entre eux, on le sait, ne chantent pas ou que très rarement en français. Vous pourrez voir à Coachella Jane, Chris, DJ Snake, Polo et Pan, FKG, Gessa Feldstein, Closy, Agoria ou encore Charlotte Gainsbourg, qu'on écoute en français avec le titre Les Oxalis, extrait de son dernier album. Le festival, qui aura lieu du 12 au 14 avril, sera diffusé en direct sur YouTube. sur 19h16 pratiquement en direct dans Soft Power. Mon invité ce soir est Martin Hajdari, directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors vous avez été directeur général de notre maison, de Radio France, vous avez été directeur général de France Télévisions, directeur de cabinet de la ministre de la Culture, et aujourd'hui vous dirigez la direction générale des médias donc, et des industries culturelles au ministère de la Culture. J'ajoute que vous êtes énarque, promotion René Char, 1995.
Oh, absolument.
Avant d'entrer dans l'agenda que nous allons dérouler, à la fois international, européen et puis national, peut-être une première question un peu générale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on a encore besoin d'un audiovisuel public? Quelles en sont les raisons, selon vous et pour vous?
Alors, avant de répondre sur le pourquoi un audiovisuel public, rappelons de quoi il consiste, de quoi il est composé. Aujourd'hui, l'audiovisuel public français, c'est 6 entreprises, sociétés que sont France Télévisions, Radio France, Arte France, France Média Monde qui diffuse RFI et France 24 partout sur la planète, TV5 Monde, l'opérateur francophone que la France finance avec ses partenaires, mais la France en prend une part très majoritaire. Enfin, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, dont les archives sont précieuses autant du point de vue de la conservation de la mémoire que pour l'alimentation de
nos quantités. Et autant pour la télé que pour la radio.
Pour la télé, pour la radio et pour la conservation, comme pour la création et l'alimentation d'œuvres de toutes sortes et vraiment remarquables. L'audiovisuel public a été constitué en monopole, ou presque, en monopole pour la télévision, en quasi-monopole pour la radio. Il y avait Europe 1, RTL, les périphériques, mais pendant très longtemps, la question de la légitimité ne se posait pas, puisque seul l'audiovisuel public était capable et autorisé à produire et à proposer des programmes audiovisuels. Et puis depuis 40 ans, on a eu droit à une ouverture de la radio, à une ouverture de la télévision. On est passé, même depuis 15 ou 20 ans, de 3 chaînes publiques, puis 3 chaînes sur 6 à 5 ou 6 chaînes publiques sur 27, avec des centaines de chaînes câblées et depuis une dizaine d'années, une offre numérique non hertzienne, non télévisuelle, elle-même devenue abondante et très présente dans les usages. Donc c'est de là que vient la question de pourquoi aujourd'hui un audiovisuel public. La première réponse, c'est peut-être vous qui nous l'offrez avec l'émission de ce soir, comme toutes les émissions de France Culture. La première réponse avant celle-là, c'est que l'usage et l'attente des Français pour l'audiovisuel public, et d'ailleurs également l'attente d'une partie du monde à l'égard de ce que la France peut avoir à leur dire, mais ne serait-ce qu'en France, nous avons aujourd'hui une consommation moyenne par Français de 2 heures par jour de programmes audiovisuels publics.
C'est radio-télé, etc.
Radio-télé, à peu près 1 heure pour France Télévisions, 3/4 pour Radio France, une dizaine de minutes ou 1/4 pour Arte. L'ensemble fait 2 heures par jour par France. Et c'est absolument massif. Il y a 31 millions de téléspectateurs quotidiens de France Télévisions. Il y a 14 millions d'auditeurs quotidiens de Radio France. Et ce, malgré l'existence d'une offre abondante de nature privée, hertzienne, numérique. Et donc, il y a un besoin, une appétence qui ne peut pas se justifier uniquement par le fait que c'est là. Et donc, si c'est là, c'est aussi parce que, si c'est là et si c'est attendu et si c'est regardé et écouté, c'est aussi parce qu'il y a une différence. Une différence qu'il faut sans cesse relégitimer, réaffirmer, à nouveau démontrer, mais une différence qui existe et qui fait que des Français, en très grand nombre, se tournent vers l'audiovisuel. Cette différence, quelle est-elle? Elle est de plusieurs ordres. Elle est tout d'abord dans ce qu'on appelle l'offre culturelle. Les missions habituelles de l'audiovisuel public, c'est informer, cultiver, divertir, ou informer, éduquer, distraire. Le triptyque s'énonce de différentes façons selon les époques. Dans ce triptyque, la mission de cultiver, d'éduquer, elle est vraisemblablement celle qui est la plus spécifique. Évidemment, France Culture, France Musique, Arte, France 5 sont des chaînes, des stations qui, par leur spécificité, incarnent cette mission. Et je pense que personne ne peut sérieusement affirmer que ce qu'elles proposent se trouve indifféremment également sur les réseaux médias privés, télé privés. Et donc là, je crois qu'il y a une évidence. Au-delà de cette évidence pour ces chaînes-là, évidemment, France Inter, c'est aussi la différence. Le Masque et la Plume, c'est une émission culturelle qui n'existe que sur France Inter. lorsque France 2, qui est la chaîne dont on regarde le plus les points de recoupement avec l'offre privée, lorsque France 2 propose Histoire d'une nation, propose le concert du 14 juillet, concert de musique classique en début de soirée à 20h30, que regardent 4-5 millions de personnes, eh bien, on a ici une offre qui n'existe nulle part ailleurs, avec une ambition autour de la culture, du débat d'idées, de l'éducation, qui est spécifique. Deuxième spécificité, j'essaierai peut-être de les dérouler plus rapidement, le soutien à la création audiovisuelle, à la création de fiction, au financement du cinéma français. Il repose parmi les chaînes en clair à plus de 60% sur l'audiovisuel public. C'est 500 millions d'euros entre France Télévisions, Arte, qui sont investis dans la création audiovisuelle. C'est largement plus de la moitié des soutiens des chaînes de télévision à la fiction. Et on sait la place que prend la fiction dans la création, la constitution d'un lien social autour d'œuvres qui sont mises à l'écran et rendues accessibles au plus grand nombre grâce à la magie de la télévision qui est de toucher beaucoup de monde. Troisième grande catégorie de légitimité, de spécificité, le service public est là pour proposer des émissions qui ne sont pas rentables, qui contribuent au lien collectif, au lien social à nouveau, qui sont fédératrices, que ce soit le Tour de France, si l'on parle de sport, c'est une très très belle émission que beaucoup de gens regardent, une très belle épreuve, mais sa production est extrêmement coûteuse, elle ne pourrait pas être proposée par une chaîne privée. C'est le cas du concert du 14 juillet que j'évoquais tout à l'heure. C'est le cas de très nombreux événements qui sont proposés ainsi sur le service public. Quatrième grande spécificité sur l'information. Bien sûr, il y a un JT de TF1 en face de celui de France 2. Celui de TF1 est de très bonne qualité, celui de France 2 aussi. Mais il y a dans l'information de la télé publique et de la radio publique des spécificités, notamment en matière de présence locale. Aujourd'hui, plus aucun média privé ne peut couvrir les coûts d'un réseau de radio locale comme celui de France Bleu, d'un réseau d'information comme celui de France 3 et a fortiori d'une information et de programmes ultramarins comme il en existe partout et que propose France Télévisions. Deuxièmement, à l'international, bien sûr, et on en voit l'importance quand l'accréditation de la correspondante de RFI en RDC, en République démocratique du Congo, a été suspendue il y a quelques jours, et les programmes FM et les programmes diffusés en modulation de fréquence suspendus, on voit bien qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin que peuvent remplir nos rédactions du service public et qui ne sont évidemment pas, ce n'est pas leur rôle, couverts par le privé. Et puis j'ajouterais, et je crois que c'est vraiment central, un travail en termes d'investigation qui est lié à l'indépendance tant de la publicité que d'un actionnariat privé. L'émission Cache Investigation de France Télévisions en est un peu un exemple. Cette émission n'existe pas ailleurs. Et ça n'est pas un hasard. De manière générale, je crois que c'est très sain d'avoir un audiovisuel privé qui soit fort, un audiovisuel public qui le soit aussi. Ça me conduit à mentionner rapidement la dernière singularité du public, qui fait aussi qu'il a un public assez fidèle et large. C'est la faiblesse de la présence publicitaire, l'absence sur certaines chaînes comme France Culture, la faiblesse sur d'autres chaînes de radio et en l'occurrence le soir à la télévision où la publicité est absente.
Alors après cette introduction un peu générale sur l'audiovisuel public, on va rentrer dans un certain nombre d'éléments du calendrier 2019. Ça nous permet un peu de voir ce qui va se passer cette année dans un certain nombre de domaines. Et au lieu de commencer par la France, je vous propose de commencer par l'international, on terminera ensuite par la France. Au niveau du calendrier international, la France va prendre la présidence du G7 cette année, qui aura lieu en France, à Biarritz, en août prochain. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce G7 et qu'en est-il de ce mini-sommet, notamment numérique, qui a été envisagé, même si pour l'instant ses contours ne sont pas précis, et d'ailleurs pas non plus ses dates, et dont les états généraux de la régulation du numérique qui sont en cours sont peut-être un peu une sorte de brainstorming, comme on dit, c'est-à-dire permettre de réfléchir.
Alors je me garderai de répondre de manière globale sur le G7 numérique et les priorités numériques de la France qui relèvent
plutôt du ministère des Affaires étrangères
et du secrétaire d'État assumée par Mounir Majoubi auprès de Bruno Le Maire qui coordonne l'ensemble de l'exercice. Nous contribuons au ministère de la Culture à un exercice qui s'intitule les états généraux de la régulation du numérique, qui est un exercice lancé par Mounir Majoubi dans le courant de l'été 2018, qui est un exercice qui vise à faire réfléchir les administrations, les autorités de régulation en charge, le Conseil national du numérique, autour de quelques grands thèmes.
Notamment quoi, la fiscalité, social.
Il y a trois grands chantiers, un chantier de régulation économique, qui porte sur les questions de fiscalité, les questions de neutralité du net, les questions de concurrence, de loyauté des plateformes dans leurs relations avec leurs partenaires. Il y a un chantier social qui est celui de l'adaptation du modèle de développement de l'économie collaborative et de du statut social des acteurs de cette économie collaborative. On voit bien à quoi cela peut se référer. Il y a un chantier sociétal, dit sociétal, qui recouvre la régulation des contenus,
la diversité,
la lutte contre éventuellement les fausses informations, la protection des mineurs contre les contenus haineux,
le racisme,
les incitations au racisme, à la haine, la pédopornographie, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle également. Ainsi que l'addiction aux écrans, le rôle que peuvent avoir les algorithmes de recommandation dans le libre choix.
Dans la prescription et la libre choix. Ce mini sommet dont on parle, qui pourrait en être une forme de prolongement, ça n'aura pas lieu quoi, pas avant l'automne de toute façon.
J'ai pas d'informations particulières sur le calendrier. Ce qui est sûr, c'est que le travail intellectuel qui a été conduit en amont vise à alimenter les travaux du G7 numérique, visent également à donner à la France les moyens d'être plus contributive auprès de la future Commission européenne qui va s'installer à partir du second semestre
Après les élections européennes.
Voilà, après les élections européennes.
Alors ça nous permet d'en venir au calendrier européen maintenant, assez complexe et c'est des sujets assez techniques et c'est pour ça qu'on est heureux, Martin Hajdari, de vous avoir ce soir, même si pour l'auditeur c'est peut-être des choses qu'il faut expliquer un peu en détail, même pour nous d'ailleurs, Zoé, Emmanuel et moi. Il y a au moins trois grands dossiers, on va les évoquer rapidement pour après en venir à la France. La directive droit d'auteur, la directive SMA qui doit être transposée, la taxation des GAFA notamment, même si ça c'est pas un sujet directement culture, mais qui a évidemment une grande importance s'agissant de Google, Apple, Facebook, Amazon. Commençons par la directive droit d'auteur. Là ça concerne notamment les articles 11 et 13, les droits voisins des éditeurs de presse, etc. On en est où? Que va-t-il se passer sur ces différents sujets qui sont assez, assez nombreux et assez, assez complexes, avec un trilogue annoncé pour le 21 janvier ?
Alors c'est effectivement très complexe, autant du point de vue des sujets traités que du jeu des acteurs, car cette directive, elle est en co-décision, donc elle est le fruit d'une décision du Conseil des ministres de l'Union européenne et du Parlement européen qui doivent se mettre d'accord, chacun avec ses règles de majorité, et converger sur un texte avec, de surcroît, une contrainte forte qui est la fin du mandat du Parlement européen et donc la nécessité d'arriver à un accord assez vite.
Sinon, on est reparti pour un tour.
Sinon, on est reparti pour un tour dont personne ne peut présager de la durée et de l'issue. Donc, on a aujourd'hui un texte qui, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant à signaler, il y a 3-4 ans, il y a eu un forum en 2014, le forum de Chaillot, qui manifestait la crainte des acteurs culturels par rapport au projet de directive sur le droit d'auteur à l'ère du numérique. On avait la crainte à l'époque que cette directive démantèle finalement les protections que le droit d'auteur offre aux créateurs grâce à la mobilisation de la France, mais de la France pas seulement le gouvernement, la France et les acteurs qui en France promeuvent le droit d'auteur et la protection des créateurs grâce à la mobilisation de très nombreux acteurs en Europe, de la société civile comme des États. Finalement, ce texte a convergé vers une forme d'équilibre qui, je crois, est reconnue de toutes parts ou presque, peut-être pas chez les GAFA qui pour certains se sont livrés à une campagne de communication assez intense depuis quelques mois, mais on a en tout cas dans ce texte reconnu quelques principes qui étaient vraiment attendus Le premier principe, vous l'avez évoqué, c'est le droit voisin pour les éditeurs de presse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement le journaliste qui écrit un article est protégé, mais également l'éditeur de presse construit un journal autour d'une marque, autour de valeurs, d'une œuvre collective, qui accueille les auteurs que sont les journalistes, mais qui a investi pour que l'ensemble prenne une valeur intellectuelle et économique, eh bien, que lorsque des articles de ce journal sont utilisés en ligne à des fins commerciales, l'éditeur de presse ait un droit à faire valoir, à être rémunéré. En simplifiant, parce qu'il faut malheureusement simplifier un peu. Ce principe du droit voisin a été reconnu dans la position du Conseil européen, du Conseil des ministres, il y a plusieurs mois, a été reconnu au terme d'une bataille assez dure par le Parlement européen au printemps. Il reste maintenant à se mettre d'accord sur ce droit voisin dans le cadre d'un trilogue. Le trilogue, c'est une instance qui associe la Commission, le Conseil et le Parlement, qui doivent se mettre d'accord sur les modalités précises de ce droit voisin. Le second grand thème de débat, et vous l'avez évoqué, c'est la rémunération, le principe de rémunération des créateurs par les plateformes de manière plus large, ce qu'on appelle
dès lors qu'il y a du contenu, dès lors qu'il y a du contenu protégé par le droit d'auteur.
Voilà la problématique du ce qu'on appelle le value gap en bon français, l'écart de valeur, l'écart entre la valeur que retirent les plateformes de l'utilisation en fait des contenus résultant d'une création intellectuelle, entre cette valeur et la valeur qui est reversée à ses ayants droit, aux créateurs, que ce soit des compositeurs de musique, que ce soit des auteurs de l'écrit ou autre. Et ce traitement du value gap, cette reconnaissance d'un droit à rémunération des auteurs par les plateformes, qui est un premier, je dirais, un pas important dans la reconnaissance d'une forme de responsabilité des plateformes numériques qui jusqu'à présent vivaient sous une forme d'exonération de toute responsabilité, eh bien ça c'est ce qui est en jeu. Là aussi, d'où leur réaction évidemment. Il y a des débats encore très techniques et pas simples entre le Conseil et le Parlement qui, espérons-le, aboutiront le 21 janvier, mais c'est ça qui est en jeu.
Et justement, vous le dites, il y a d'abord ce temps du trilogue, donc on n'est pas du tout sorti de l'auberge, et ensuite il faudra la transposer, cette directive, parce qu'on rappelle qu'on doit les transposer, mais chaque pays les transpose différemment. Vous l'avez dit, ces deux articles importants, ils ont soulevé des débats, pas uniquement auprès des GAFA, il y a toute une série de garde-fous potentiels à mettre en œuvre, sûrement, avant qu'elles soient définitives. Là-dessus, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Je rappelle que parmi le problème, par exemple, que posent les droits voisins, ça va être, est-ce qu'on pourra reprendre des articles? Est-ce qu'on pourra partager des articles s'il y a des droits d'auteur qui sont attachés? Vous, moi, est-ce que la citation est possible? Est-ce que finalement, les éditeurs de presse vont faire ruisseler l'argent qu'ils récupéreront vers les rédactions? C'est absolument pas certain. Et enfin, est-ce que un Google News, un Google Actu, dont aujourd'hui, les journaux dépendent déjà, soit ne risque pas de fermer, comme ça a été le cas en Espagne, soit de devenir extrêmement rétributeur, et finalement pour ces journaux, et finalement on risque d'arriver dans une situation où les journaux pourraient en dépendre. Comment ces débats-là, vous les voyez, vous les sentez, et vous travaillez dessus ou pas déjà?
Ça fait beaucoup de questions sur la rémunération qui ruissellerait vers les auteurs. Je crois que le principe, en tout cas en France, mais ça dépendra de ce que la directive prévoira précisément ou de quelle liberté elle laissera aux États dans la transposition. Le principe d'une association des auteurs aux fruits de ce droit voisin n'est pas contesté en France. Après, les modalités sont évidemment centrales, mais le principe n'est pas contesté. Ensuite, on a effectivement... deuxième point important, il n'est pas question d'inclure dans ce droit voisin la liberté de lier. Qu'un moteur de recherche vous propose un lien vers un article, vers un site d'un éditeur de presse, ça n'est pas en cause et ce n'est pas ça qui sera pris. En revanche, là où il y a un débat, c'est lorsque ce lien est associé à un extrait. Dans quelle mesure l'extrait et selon quels critères quasiment quantitatifs cet extrait peut être considéré comme se substituant à l'article, voire qui lui prend sa valeur, et est-ce qu'il faut le faire contribuer en quelque sorte à ce droit voisin.
Concrètement, de manière très concrète pour illustrer pour nos auditeurs, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez Google News.
Par absolument.
Exemple, on appelle un snippet. Vous pouvez avoir 3-4 lignes, le début de l'article, son chapeau. Est-ce que là, Google utilise votre droit d'auteur ou pas.
Eh bien, faites l'exercice vous-même. À quel moment, en ayant lu ces trois mots ou trois lignes, vous passez de lire l'article ou pas? Malheureusement, quelques lignes parfois associées à la marque, parce que la valeur d'un article, c'est l'article, mais c'est aussi la marque qui le porte et qui lui donne sa crédibilité. Cette marque, c'est celle de l'éditeur. Donc, la question n'est pas simple et c'est au cœur du débat. Là, je ne vais pas en présumer. Le troisième élément que vous avez soulevé, qui est extrêmement important, c'est le droit voisin a été introduit en Allemagne, en Espagne, sous différentes formes, et s'est heurté à une forme de chantage de Google qui a dit, écoutez, si c'est comme ça, je ferme, ou je vous dis référence, si vous voulez être payé, je vous dis référence. Ce qui a conduit en Allemagne, les éditeurs, à finalement accepter un statut de non-rémunération, plutôt que le risque de disparaître en étant déréférencé. Le consensus assez large, mais encore une fois, l'histoire n'est pas écrite, c'est que en décidant d'un tel droit au niveau européen, en faisant une loi commune, il y a quand même beaucoup plus de chances que un service comme Google ne puisse pas se passer sur l'ensemble du territoire européen tout le flux de trafic lié à l'accès à ces œuvres-là. C'est comme ça qu'on peut le concevoir, mais encore une fois, c'est une histoire. On ne peut pas toujours prévoir à l'avance ce que seront les réactions des acteurs économiques par rapport à ce que le droit prévoit.
Emmanuel Paquette.
Alors justement, il se trouve que le vice-président de Google Actualité a pris la parole fin décembre, donc Richard Gingras, et qui a dit que la possibilité que nous fermions Google Actu dans l'ensemble des pays de l'Union européenne est une réalité. Donc ils ont déjà menacé de fermer sur l'ensemble du territoire. Donc ça va un petit peu, c'est un petit peu en contradiction avec ce que vous venez de dire.
Je prends votre citation. La possibilité est une réalité. Donc il est possible que ça puisse arriver. Donc c'est, je pense que ça relève d'une forme d'influence. Je ne dirais pas forcément de chantage, mais on verra ce que fera Google le moment venu. Ça ne doit pas être une raison pour renoncer a priori à l'exercice d'un droit voisin. Ensuite, la façon dont chaque éditeur voudra lui-même exercer son droit face à ce que lui dira ou pas la plateforme ultra dominante, c'est une autre question. Mais ça ne doit pas empêcher de reconnaître le droit.
Oui, parce que l'autre élément avancé par Google, c'est de dire que si c'est le cas, ils peuvent fermer, mais ils peuvent aussi sélectionner simplement 3-4 titres les plus importants du marché pour les rémunérer et en revanche évincer tous les autres, ce qui aurait ce qui créerait un problème de, en gros, les plus gros.
De pluralisme.
De pluralisme de la presse en conservant les plus gros et en tuant quasiment les plus petits.
Joker.
Le pouvoir de recommandation, son articulation avec le pluralisme, on y réfléchit dans le cadre de la loi Bichet, justement, pour transposer à la loi Bichet les principes de pluralisme et s'assurer que dans les offres numériques, en l'occurrence les kiosques numériques, chaque titre soit présent. Chaque problème appellera sa réponse. Mais encore une fois, ça n'est pas une raison pour renoncer à faire reconnaître un droit.
Et au combat. Rapidement sur la directive SMA, autre sujet très technique, le débat c'est essentiellement de la transposer en France, et ça va nous amener d'ailleurs peu à peu vers la France. Quel est le débat pour 2019?
Alors, le débat est de la transposer en France, car nous avons eu gain de cause. Oui. Nous, la France et les pays qui la soutenaient, c'est un combat, un débat de plus de 2 ans, même 3-4 ans si on prend les travaux préparatoires, dont la partie la plus visible, les deux parties les plus visibles, sont d'une part le fait d'assujettir des services audiovisuels à la demande ou linéaire installée à l'étranger, dans un autre État membre, mais qui cible la France.
Typiquement Netflix, par
exemple. Typiquement Netflix, mais aussi Amazon, mais aussi Altice Studio, lorsqu'ils se sont installés au Luxembourg, qui vont proposer des programmes à un public français, qui sont faits pour un public français, mais qui aujourd'hui ne sont pas soumis aux mêmes obligations de financement de la création audiovisuelle et cinématographique que leurs concurrents français, hein, qui ont le même marché, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes. Donc ça, à la fois, c'est insupportable pour les acteurs qui sont installés en France et qui, eux, financent conformément à la réglementation française, et par ailleurs, ça prive le financement de la création audiovisuelle française de ressources qui lui seraient dues. Quand on voit que Netflix se revendique ou on lui attribue 3,5 millions ou 4 millions d'abonnés aujourd'hui...
En France,
ça devient massif. Donc, désormais, et moyennant la transposition qui va venir... Pour le chiffre d'affaires réalisé en France, et selon des modalités qui vont être à définir dans la transposition, Netflix, Amazon, Altice Studio devront contribuer au financement de la création du visuel cinématographique en France. Ça, c'est le premier point important. Le second point extrêmement important, c'est la reconnaissance dans la directive de la possibilité et même du devoir qu'ont les États membres d'inclure dans la régulation audiovisuelle les plateformes de partage de vidéos, Alors, pour une régulation audiovisuelle qui est circonscrite à la protection des publics, la protection des enfants face aux contenus dangereux, la lutte contre les contenus haineux, la lutte contre les contenus glorifiant le terrorisme ou incitant au terrorisme. Donc c'est un champ qui est assez restreint, mais qui va permettre aux régulateurs nationaux de demander des comptes sous une forme de co-régulation, une nouvelle forme de régulation, mais de demander des comptes aux plateformes de partage de vidéos pour s'assurer qu'elles respectent des normes acceptables socialement, collectivement.
Comme par exemple YouTube.
Comme par exemple YouTube.
Un mot très rapidement sur la taxation des GAFA, c'est pas exactement de la responsabilité du ministère de la Culture, puisque ça dépend d'abord du commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière, à savoir Pierre Moscovici, et à Margrét Vestager, qui est la commissaire européenne à la concurrence, parce que quand même, la taxation des GAFA, c'est un peu la clé d'un peu tout ce dont on parle ce soir. Comment vous voyez ce débat qui est un peu enlisé, voilà, c'est exactement le mot.
Alors, ce dont on parle beaucoup ce soir et ce qui nous préoccupe nous beaucoup, c'est la reconnaissance d'une forme de responsabilité pour les plateformes, responsabilité
d'hébergement.
À l'égard, voilà, qui n'est pas uniquement celle d'un hébergeur technique neutre, mais quelqu'un qui joue un rôle d'intermédiaire actif entre ceux qui ont accès au contenu et ceux qui les proposent. Ils ne sont pas uniquement neutres, ils éditorialisent en quelque sorte, ils ne sont pas éditeurs au sens de la presse, c'est pas aussi large que cela, mais c'est intermédiaire et ça faut reconnaître. La fiscalité, c'est parce que ce sont des acteurs qui sont à la fois des accès aux œuvres, donc ils sont des, encore une fois en bon français, des gatekeepers, ils conditionnent l'accès aux œuvres et c'est ce qui crée leur responsabilité, mais ils sont aussi des concurrents. Et comme concurrents, il faut qu'ils aient des règles fiscales effectivement équitables. Alors, moi, je ne suis pas du tout en charge de cela. Il y a une taxation en France qui a été annoncée suite à l'absence de décision au niveau européen. Je crois que de la même façon que nous avions en France en 2014 introduit un taux de TVA hyper réduit sur la presse en ligne, avant que ce soit pleinement reconnu au niveau européen, faute d'avoir pu le faire reconnaître, mais en s'appuyant sur le principe de neutralité technologique qui était reconnu au niveau européen, finalement, cette neutralité, elle a été reconnue et elle est entrée en vigueur il y a quelques mois dans le cadre d'une révision de la directive TVA. Donc, je ne me prononce pas sur le fond de cette négociation, je dis simplement que le volontarisme peut avoir des vertus et peut aussi obtenir des résultats, et lorsque il n'y a pas de résultats probants, il ne faut pas forcément pour autant lâcher l'affaire, et on peut procéder autrement.
Emmanuel Paquette.
Alors, il faut dire que en matière culturelle, vous êtes encore plus fort que Bercy pour taxer les géants du net, puisqu'il se trouve que sur l'année 2018, Netflix, YouTube et d'autres vont payer déjà une taxe de 2% qui va directement au Centre National du Cinéma sur leur chiffre d'affaires déclaré en France. Donc ils doivent eux-mêmes le déclarer en France. Donc de ce que je comprends, ça devrait être autour de un peu plus de 7 millions d'euros pour l'année 2018, hein, même si les comptes ne sont pas totalement terminés. Donc comment la culture a réussi ce que Bercy n'a pas encore réussi à faire, à savoir faire payer les impôts à ces plateformes? Vous devriez aller à Bercy, en fait.
J'y suis passé dans une autre vie.
Après l'ENA, il est rentré au ministère des Finances.
Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision de ces acteurs américains extra-européens qui soit une vision démoniaque. Ils ne cherchent pas à échapper à la loi. Ils cherchent éventuellement à influencer sa conception, son élaboration, mais une fois qu'elle est décidée, qu'elle est votée, il s'y plie. Je pense qu'un des problèmes au niveau européen, c'est pas uniquement que le problème n'est pas uniquement les GAFA, c'est la capacité parfois de certains États à se mettre dans un jeu collectif.
Autrement dit, c'est-à-dire c'est parce qu'on n'a pas des règles fiscales cohérentes qui leur permet d'aller au Luxembourg.
Ils suivent la loi, ils suivent leur intérêt.
Qu'ils suivent leur intérêt peut difficilement leur être reproché. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'une loi, une fiscalité leur est appliquée et vraiment leur appliquée, je peux pas prononcer sur le taux ou les produits que vous avez évoqués, parce que c'est le CNC qui maîtrise tout cela, mais on leur a appliqué une taxe qui est assez cohérente et logique en termes d'usage par rapport à la taxe sur les vidéos qui existe, et on ne fait qu'étendre à des nouveaux usages une fiscalité qui existe pour les usages correspondants dans le monde physique. Donc de ce point de vue-là, on a une approche. Alors certes, en France, on a une vision ambitieuse du financement de la création de l'amont par l'aval. Et donc, on a plusieurs systèmes de financement. Mais celui-là, on l'étend et les plateformes en question ne s'y soustraient pas. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas renoncer à le faire.
Appliquer une taxe aussi grande soit-elle sur un chiffre d'affaires qui est aussi bas qu'il est par rapport à ce qu'il devrait être, ça reste quand même un élément du débat.
C'est un début.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Je reçois ce soir Martin Ajdari, directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, en ce début de l'année 2019, occasion pour nous de passer en relais, en revue les grandes dates et les grands dossiers, et aussi les débats que suscitent les lois et les propositions de lois au niveau international, au niveau européen. Et maintenant, au niveau français, dernière partie de cette émission consacrée à la France, on va parler de la loi audiovisuelle, on va parler un petit peu du CSA, et puis si on a le temps, on reviendra sur la loi fake news et la presse. Tout ça assez rapidement dans le quart d'heure qui nous reste. Loi audiovisuelle, alors c'est la réforme de la loi 1986, je crois, qui est toujours réformée depuis. Plusieurs sujets là, le rapprochement Radio France, France Télévisions, la gouvernance, la nomination des PDG, là ça renvoie à la question du CSA. L'application de la transposition de la directive SMA, on l'a évoqué. Et puis les questions, au fond, et j'aimerais commencer par ça, de l'exemplarité finalement de l'audiovisuel en ce qui concerne la parité, la diversité. L'audiovisuel public doit être exemplaire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une loi et un calendrier d'ailleurs de cette loi, même si pour l'instant il n'est pas fixé, je crois.
Alors, sur l'exemplarité de l'audiovisuel public, je pense qu'il l'est en matière de parité. On peut déjà relever que la plupart de ces dirigeants sont des dirigeantes, ce qui tranche singulièrement avec la situation observable dans le privé. Pour le reste, l'audiovisuel public est soumis à des exigences plus fortes que l'audiovisuel privé en matière de présence des femmes à l'antenne, de nombre d'expertes, de proportion d'expertes invitées dans des émissions de radio, de télévision, en matière de représentation de la diversité, en matière d'accessibilité de ces programmes à l'ensemble de la population, notamment ceux qui souffrent d'un handicap. Donc ça, je crois que ça n'est pas en cause, en tout cas dans la loi qui va venir. La loi de 86, donc la loi audiovisuelle, effectivement modifiée, révisée, amendée plus de 90 fois en 30 ans, doit avoir une révision assez large, là, dont le premier objet sera la transposition de la directive SMA que nous avons évoquée tout à l'heure. La seconde, qui étend les principes de la directive SMA, c'est de mieux garantir la diversité culturelle et la protection des publics par rapport à l'audiovisuel dans un univers où il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Et donc, de prendre en compte cette diversité d'acteurs, ça veut dire éventuellement donc travailler sur les plateformes de partage de vidéos. C'est également, pourquoi pas, une réflexion sur les quotas. Le CSA, dans son rapport, proposait de discuter, de dialoguer avec les plateformes de streaming, de diffusion en flux de musique, pour voir comment l'objectif de diversité pourrait être inclus dans leur fonctionnement. Les questions d'encadrement...
Le nombre de chansons en langue française, etc.
Voilà, voir comment dans la mise en avant des playlists, différents modèles de coopération que je n'ai pas encore je dirais, c'est pas à moi de les définir, mais comment on pourrait se donner ce genre d'objectif. L'encadrement de la publicité, aujourd'hui, les GAFA, comme on les nomme, n'ont pas de règles publicitaires, alors que la télévision connaît beaucoup de contraintes. La question, par exemple, de la capacité à cibler ou à segmenter le public se pose parfois. La lutte contre le piratage, le fait de mieux prendre en compte le streaming, la diffusion en flux, qui est aujourd'hui majoritaire dans les usages illégaux, alors qu'aujourd'hui l'arsenal législatif ne concerne que le pair à pair, ce sont des choses.
Alors tout ça pourrait être dans la loi. Pour l'instant, elle avait été annoncée comme prévue initialement au premier semestre, donc passage en Conseil des ministres. C'est maintenu, on en est où? On ne sait pas.
Non, la loi doit être présentée à un Conseil des ministres, effectivement, en 2019, vraisemblablement au premier semestre.
Avant l'été, on lit partout.
Avant l'été, c'est effectivement le créneau qui a été indiqué et qui est cohérent avec une transposition de la directive SMA dans les délais qu'elle fixe elle-même de 21 mois après sa publication. Donc on est dans ce calendrier-là.
Un mot sur les propositions d'Aurore Berger, députée LREM, notamment qui propose de réformer la redevance, qui est liée évidemment à la redevance à la réforme de la taxe d'habitation, l'universaliser, rétablir la publicité sur France Télévisions, l'enlever la publicité sur Radio France, et toutes les chaînes et France 5. Donc c'est un élément du débat.
tout rapport parlementaire, notamment celui-ci qui est extrêmement riche, est un élément du débat. Il y a eu d'autres rapports sur la redevance. Le débat n'est pas nouveau. Ce qui est et celui de la publicité non plus. Je crois qu'aujourd'hui, on a des acteurs traditionnels, des médias qui vivent de la publicité, qui déjà vivent difficilement parce que les fameux mêmes GAFA accaparent toute la croissance du marché. Je ne pense pas que l'ambiance soit à déplacer le curseur pour faire profiter de plus de publicité le secteur public. Sur la redevance elle-même, il n'y a pas de décision qui soit prise en termes de
d'abord, elle n'a pas augmenté
d'adaptation
cette
aux usages.
Année.
Voilà. Deux points quand même que je voulais mentionner. Le premier, c'est que la réforme de la taxe d'habitation imposera de toute façon de se poser la question des paramètres de la redevance. Et ça, c'est pour également un avenir relativement proche. Je n'ai pas le calendrier précis parce qu'il dépend de Bercy, mais c'est, je dirais, dans les prochains mois. Et par ailleurs, effectivement, dans un contexte de sensibilité extrême à la pression fiscale, la redevance en 2019 n'augmente pas, 139 euros, moins de 12 euros par mois pour financer ce que j'évoquais tout à l'heure. Elle n'augmente pas pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'indexation sur l'inflation ayant été suspendue grâce aussi aux efforts d'économie demandés au secteur audiovisuel public. De ce point de vue, d'ailleurs, puisque je suis passé dessus assez rapidement, effectivement, la loi audiovisuelle, la réforme de la loi audiovisuelle, aura aussi vocation à se pencher sur l'audiovisuel public.
Mais est-ce que ça a du sens de réformer l'audiovisuel public sans réformer son financement? C'est le nerf de la guerre, l'argent, de toute façon. Est-ce que c'est possible de faire des holdings et machin, de décider de budget, sans avoir tranché sur comment on finance l'audiovisuel public?
Mais aujourd'hui, l'audiovisuel public est financé ultra majoritairement par la redevance. La redevance, aujourd'hui, elle existe. Elle est versée par très grande majorité des foyers français et son montant suffit à financer l'audiovisuel public dans les missions qu'on lui fixe. Donc il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de lien entre les deux. Bien sûr, il faudrait, dans la mesure du possible, avoir une assiette qui évolue avec les usages. Ensuite, il y a la question du calendrier. Beaucoup de rapports parlementaires ont proposé et recommandé de telles évolutions. Aujourd'hui, est-ce qu'il est pertinent d'envisager une extension d'assiette qui veut tout de même dire que des contribuables qui ne payent pas vont payer demain? Ce n'est pas forcément ce qui est le plus, je dirais, attendu aujourd'hui. D'autant qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat pour financer l'audiovisuel public parce que le taux d'équipement des téléviseurs, certes, tend à diminuer, mais la population continue à s'accroître. Le nombre de foyers s'accroît. Donc on n'est pas dans une situation d'urgence. Donc il me semble préférable de se concentrer sur l'émission, l'organisation de l'audiovisuel public, comment cet audiovisuel public va s'acquitter de cette tâche, de ses missions, de la façon la plus efficace possible, dans un contexte numérique très nouveau.
Holding, pas holding?
Alors, holding, pas holding, ça c'est une question d'organisation. Le débat, il n'est pas tranché aujourd'hui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on rapproche Radio France et France Télévisions?
Alors, ce qui est certain, le cap, c'est celui de la coopération la plus étroite possible et qui doit se renforcer. C'est très clair.
C'est déjà le cas
avec France Info. France 3, France Bleu vont demain lancer des expérimentations de matinales communes, demain matin. Et on voit mal, dans un univers où tout est numérique, où la concurrence est foisonnante et extrême, comment l'audiovisuel public pourrait développer des réseaux régionaux, des plateformes technologiques qui soient complètement différentes et qui ne soient pas pensées ensemble. Comment est-ce qu'on coordonne? Ça peut être de la coordination simple, ça peut être de la présidence commune, comme cela avait été le cas pour France 2, France 3 à une époque, ça peut être une holding,
un conseil d'administration commun ou pas, etc.
Voilà.
Un président commun ou pas, tout ça étant débat. Un mot rapide, on n'a pas beaucoup de temps, sur le CSA, c'est quoi le calendrier à venir? D'abord la fin du mandat d'Olivier Schramek, et donc la nomination par le président de la République d'un nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et par les autres membres, et de nouveaux membres également.
Le 23 janvier prendront fin le mandat d'Olivier Schramek ainsi que celui de membres du conseil Mémona Interman et Sylvie-Pierre Brossolette dont les successeurs seront nommés l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat à la même date, ce qui veut dire que sur 7 membres du collège, 3 nouveaux.
On parle beaucoup de fusion du CSA avec la CNIL, fusion avec l'ARCEP, fusion avec Adopi, c'est les propositions. Le nom d'Isabelle Falque-Pierrotin sort aujourd'hui, notamment fortement dans le JDD, comme étant potentiellement une présidente du CSA, peut-être qu'elle aurait ou pas d'ailleurs, le président de la République pourrait vouloir la nommer. C'est quoi le débat finalement dans cette question de la fusion avec d'autres ou de l'agrandissement du périmètre ?
Le débat, c'est qu'on a aujourd'hui des acteurs, un environnement qui est caractérisé par des grands acteurs numériques qui sont un peu les mêmes interlocuteurs pour le CSA, pour l'ARCEP, pour la CNIL, peut-être pour la Hadopi, et que ça requiert une expertise en matière d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de toutes sortes de questions qui est très pointue, et mettre en commun les forces et les ressources peut être un atout. Plus spécifiquement, entre le CSA et l'ARCEP, ce qui avait été au cœur des propositions de rapprochement il y a quelques années, c'est l'idée que les acteurs telco de télécommunications interviennent de plus en plus sur les contenus, offrent des programmes audiovisuels, que les acteurs de télévision se font rémunérer dans des conditions qui sont parfois contestées leur programme par les opérateurs de télécommunications qui les distribuent. Les questions de neutralité du net sont des questions partagées entre ces acteurs.
Donc ça peut avoir un sens.
Un sens. La plateforme, ce qu'on appelle la plateforme TNT, la diffusion hertzienne, va progressivement voir sa place décroître. Donc tout ceci crée un contexte.
Il y a le modèle de la FCC aux États-Unis.
Voilà, la FCC, l'Ofcom au Royaume-Uni, qui est également sur le même principe. Donc la question, elle se pose évidemment à nouveau aujourd'hui. Et chaque fois qu'on a une réflexion un peu d'ensemble sur le système audiovisuel, c'est normal que la question soit posée. Et ça fait partie des débats qui auront vraisemblablement lieu au moment de l'examen de la loi audiovisuelle, de même que pour les rapprochements CSA-Hadopi qui ont été évoqués dans le rapport Berger, sachant qu'on peut faire coopérer des autorités de régulation de manière plus étroite sans forcément les rapprocher ou les fusionner. Fonds, ouais. C'est ce qu'Olivier Schramek proposait, ou c'est ce que le rapport du CSA en septembre proposait. Il y a différentes modalités qui sont possibles.
Un dernier mot, très très brièvement, puisqu'il nous reste une minute, sur peut-être la presse, comment redonner de la crédibilité aux médias, et la loi Bichet, dont vous avez aussi la responsabilité.
La loi Bichet, c'est une révision annoncée de cette loi qui date de 1947, qui a organisé
la distribution
de la presse vendue au numéro, la distribution physique dans toute la France, qui est une des conditions du pluralisme effectif, parce que le pluralisme effectif, c'est quand l'ensemble de la presse, en particulier la presse d'information politique et générale, est accessible partout sur le territoire, visible dans l'espace public et pas uniquement dans quelques lieux privilégiés. Pour faire très bref, ce système est un peu à bout de souffle. Un rapport rédigé par Marc Schwartz, actuel président de la Monnaie de Paris, mais qui à l'époque réfléchissait à ces questions, a bien diagnostiqué les impasses devant lesquelles ce système se trouvait.
Qui
notamment
pose à une montée des coûts de plus en plus élevés.
Les volumes baissent très fortement, les volumes distribués.
Donc les poids,
le lectorat physique baisse, les volumes distribués baissent. On n'arrive plus à couvrir les coûts de l'opérateur, des opérateurs de distribution que sont Presstalis et les messageries Lyonnaises de Presse. Donc elles sont en tension forte, notamment Presstalis. Les marchands de journaux, les diffuseurs de presse eux-mêmes souffrent énormément et voient arriver des quantités de papier considérables qu'ils doivent passer un temps démesuré à mettre en place puis à remballer le soir.
Et les journaux coûtent de plus en plus cher. Le Monde vient de passer à 2,80 €.
On a un système qui a besoin d'une régulation plus forte, plus active, alors qu'elle est aujourd'hui largement aux mains des professionnels. On a besoin d'un système qui donne plus de maîtrise pour les marchands de journaux sur les quantités mises en vente. On a besoin d'un système où l'installation de points de vente puisse être simplifiée en étant tout de même attentif à ne pas fragiliser, le marchand de journaux voisin. Donc on a une régulation à repenser, et c'est à l'agenda pour les prochaines semaines, prochains mois.
Voilà, on a essayé avec vous ce soir de balayer un peu, si on peut dire, l'agenda 2019, des rendez-vous à la fois internationaux, européens et puis nationaux concernant les secteurs qui sont les nôtres et les vôtres aussi d'ailleurs, ça tombe bien, à savoir les médias, les industries culturelles et puis le numérique, qui, même s'il n'est pas dans l'intitulé de votre direction générale, l'une des principales au ministère de la Culture, fait aujourd'hui sens et débat dans tous ces secteurs. Merci infiniment Martin Ajdari d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup à vous.
Soft Power, dans un instant, la seconde partie de cette émission, avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. On parlera ce soir de Huawei. Et puis dans un instant, à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation sera Antonio Casilli, dont c'est un peu le week-end.
Puisqu'il était
chez Sylvain Bourmeau samedi, puis dans le débat d'avis critique de Raphaël Bourgois. Et donc ce soir dans North Soft Power.
En attendant les robots, enquête sur le travail du clic qui vient d'arriver en studio. Ce sera son troisième passage sur notre antenne ce week-end, mais on est contents.
On a droit à 3, il paraît, c'est le maximum, mais c'est le cas. Tout cela à suivre après XXXTentacion sur France Culture. Américain XXXTentacion avec le titre Bad qu'on écoute en ce moment, extrait de son dernier album disponible depuis peu. Pourtant, le rappeur âgé de seulement 20 ans a été abattu le 18 juin dernier à Miami. Skins, son nouvel album, est donc un album posthume dont la promotion a été assurée en partie par le compte Instagram du rappeur, géré par sa mère et son équipe. Ce compte, fort de plus de 15 millions d'abonnés, a publié des contenus pour annoncer la sortie de cet album depuis le compte d'un mort. Ces contenus sont ensuite supprimés du compte, ils réapparaissent, ils disparaissent, influencent les utilisateurs et disparaissent donc comme si XXXTentacion, qui en quelques années de carrière a inspiré de nombreux artistes tels Kanye West, était encore présent parmi nous.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Antonio Casilli.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avec nous ce soir puisque vous êtes l'invité innovation. Vous êtes sociologue, maître de conférence en humanité numérique à Télécom Paris Tech et chercheur au centre Edgar Morin de l'EHESS. Vous êtes rattaché à l'EHESS où vous avez fait votre thèse d'ailleurs. Vous avez beaucoup travaillé, notamment dans une première partie de votre recherche sur ce que le numérique faisait au corps. Et depuis plusieurs années, vous travaillez sur le digital labor. On va en parler ensemble, on va définir cette notion. Vous publiez donc cette semaine « En attendant les robots au seuil », une enquête sociologique assez passionnante sur ce que vous appelez le travail du clic. Et votre constat est le suivant, il y a un énorme essor, en tout cas on le pense, on le dit, et dans le discours de l'intelligence artificielle. Et le discours que cet essor suscite fait penser qu'avec l'automation du travail, l'arrivée, l'avènement des robots, le travail va disparaître. Vous, vous dites que c'est faux, ce travail ne disparaît pas, il est peut-être fragmenté, il est peut-être plus petit, il est souvent surtout occulté. Pourquoi vous dites ça ?
Parce que, en effet, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des intelligences artificielles, qui, grosso modo, sont des solutions intelligentes basées sur ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage statistique, il faut que quelqu'un enseigne à ces machines à choisir les bons résultats, ou faire les bonnes suggestions, ou trouver les bonnes solutions. Et ce quelqu'un n'est pas dans la quasi-totalité des cas, en sublime dans l'informatique, un ingénieur ou un data scientist, mais au contraire, quelqu'un qui, normalement, on appelle un micro-tâcheron ou un tâcheron du clic, ou parfois c'est même un usager lambda de nos plateformes. Donc nous-mêmes, à chaque fois que nous taguons par exemple, c'est-à-dire nous labellisons une image ou nous laissons un hashtag sur Twitter, sommes en train d'entraîner des intelligences artificielles qui sont, par exemple, capables de reconnaître les sentiments, reconnaître les formes, et par la suite, nous proposer des solutions adaptées. Mais la question est que ces solutions ne naissent pas de manière organique, spontanée. Il faut que quelqu'un injecte du travail dans ces applications, et ce travail est un travail de type particulier, parce que est un travail que je définis comme tâcheronisé, c'est-à-dire réduit un petit tâche fragmenté et surtout datafié, c'est-à-dire un travail qui produit de la donnée et qui sert pour produire en gros les données qui nourrissent les algorithmes qui régissent après les plateformes numériques.
Oui, donc on est très très loin, ça pourrait s'appeler nous robots humains parce qu'on fait du travail qui sert à ça, vous appelez ce travail-là le digital labor, travail du clic. C'est difficile de le repérer, de le quantifier, de l'indexer et c'est un travail qui n'est pas le même selon évidemment les acteurs qui l'utilisent ou en tout cas qui en ont besoin. Vous référencez trois types de digital labor qui sont liés en fait à trois types de plateformes, trois types d'entreprises. Les plateformes vous avez un superbe chapitre qui s'appelle « De quoi la plateforme est-il le nom ?» Les plateformes, c'est quoi et quel est le type de travail? En quoi est-ce qu'elles elles organisent et elles reposent, en termes de valeur, sur un travail nouveau?
Eh bien, les plateformes ne sont pas des entreprises au sens classique du terme. Elles représentent plutôt un hybride entre marché et firme. Et pour cela, donc, elles ont une structure hiérarchique. Pensez à Amazon, dont la gestion des salariés est des plus brutales et très à l'ancienne, si l'on veut. Mais en même temps, elles sont un marché parce que elles proposent, par exemple, d'une part, un marketplace. Encore une fois, Amazon est un marché en tant que tel, un marché de marchandises, un marché de données aussi, et un marché du travail, en l'occurrence.
Et alors justement, qu'est-ce que c'est ce travail? Vous dites qu'il y a trois types de digital labor, oui. un travail sur les plateformes qui reposent essentiellement sur la demande, par exemple. Donc, c'est quoi ce boulot-là?
Les plateformes à la demande qui produisent donc ce travail à la demande sont des plateformes comme Uber et Deliveroo, qui proposent un service en temps réel, à flux tendu, produit à flux tendu. Et donc il faut que quelqu'un soit toujours prêt à s'engager dans la réalisation de ce service. Et on peut penser, par exemple, que Uber est une entreprise classique, parce qu'on voit quelqu'un qui conduit et on voit le service. Mais en réalité, c'est une plateforme qui, comme toute plateforme, a son modèle d'affaires complètement centré sur la production de données et la mise à disposition de ces données pour créer des solutions automatiques. En l'occurrence, pour produire ces véhicules autonomes, qui ne sont pas complètement autonomes. Et ça, c'est la première famille. Après, il y a une deuxième famille qui est décidément moins connu. À la limite, je dirais que c'est presque comme le Fight Club, hein. Il ne faut pas en parler, c'est le micro-travail. Le micro-travail, c'est des plateformes comme Amazon Mechanical Turk qui sont des marchés du travail fragmenté. Si vous êtes une entreprise et vous voulez numériser une solution, vous voulez numériser des documents, par exemple, au lieu de créer une solution logicielle et une base de données, de l'entretenir, ce qui coûte extrêmement cher, vous confiez pour qu'il numérise de vos documents, votre masse de documents, à des centaines de milliers de micro-tâcherons, de micro-travailleurs. Donc ça, c'est la deuxième famille. Après, la troisième famille, c'est plutôt ce qu'on appelle un travail gratuit, mais je mets ça entre beaucoup, beaucoup de guillemets. C'est le travail, finalement, que chacun d'entre nous apporte dès qu'on se connecte sur des plateformes sociales. Donc c'est ce qu'on appelle le travail social en réseau. Et ce travail social en réseau sert autant pour produire des contenus, mais j'insiste beaucoup sur le fait que les plateformes, finalement, sont assez agnostiques vis-à-vis des contenus. Ce qui est intéressant pour elles, c'est les métadonnées. Donc, à chaque fois que vous publiez une vidéo sur YouTube, ce qui compte, c'est par exemple le nombre de visionnages, le nombre de partages, les commentaires, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui fait, en gros, l'enveloppe informationnelle d'un contenu et qui fait la véritable richesse de ces plateformes.
Donc, effectivement, c'est là où c'est très intéressant, c'est que vous, avec ce livre, vous essayez à la fois, vous nous rappelez que parmi ces gens et ces quantités de travail, il y a concrètement aussi ce que vous appelez des tâcherons, c'est les fermiers du clic, c'est des gens qui souvent sont dans d'autres pays. Il y a un véritable prolétariat, on peut le dire, du digital labor. Il y a d'une part ça, et puis que nous travaillons pour ces plateformes, en réalité. Ce que vous appelez ce travail gratuit, vous parlez de pro-d'usager, comme si... Pourquoi cette contraction?
Parce que c'est une traduction assez maladroite, je l'avoue, de prosumer, donc c'est un producer-consumer qui devient en même temps un producteur et un usager de la plateforme. La plateforme nous considère comme des usagers. Et encore une fois, la plateforme ne voit pas véritablement la différence entre un usager qui fait un travail rémunéré et un usager qui n'est pas rémunéré pour son travail. Ce qui crée une continuité extrêmement intéressante et riche d'un point de vue politique entre les personnes qui sont micro-rémunérées et qui ont de la difficulté pour arriver à la fin du mois parce que, justement, une partie importante, parfois la totalité de leurs revenus dépend de leur activité de micro-travail et des personnes qui, normalement, sont dans le nord du monde, qui font partie de... qui sont des citoyens de pays à haut revenu et qui n'ont pas besoin de ça et qui, donc, peut se permettre de jouer le jeu du bénévolat,
d'un travail loisir, vous appelez ça le wager, par exemple, contraction de work et de leisure, cette espèce de nous quand on le fait, c'est-à-dire publier des contenus numériques pour notre plaisir, pour participer, pour exister, et on n'a pas la sensation de fournir un travail.
Oui, un travail loisir, ou parfois on l'appelle même un playboy, donc un play and labor, en même temps, donc il y a des éléments de ludification qui poussent les usagers à se servir de ces plateformes. Les éléments de ludification, vous les voyez par exemple dans les compteurs de Facebook. Quand on voit monter le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre d'emojis, on est content, on a effectivement vraiment une bonne sensation assimilable à celle qu'on peut avoir pendant un jeu. Et donc ces éléments de jeu sont constamment sollicités, non seulement finalement par les plateformes, mais en général par les entreprises contemporaines. Les économies contemporaines cherchent à introduire des éléments de plaisir, même dans l'entreprise la plus classique.
Et pour revenir à ce titre, en attendant les robots, vous le dites, quand bien même aujourd'hui et même demain nous aurions des robots, par exemple des voitures autonomes, par exemple des processus d'automation qui aujourd'hui sont assurés par des personnes physiques, qui demain le seront peut-être dans une partie par des robots, vous le dites, il y aura toujours ce boulot, parce que le robot il doit continuer à être entraîné, il y a cet annoteur qui interagit avec la manière dont une voiture autonome va être conduite. L'humain ne disparaîtra jamais, le travail ne disparaîtra jamais, même si c'est un travail qui est fragmenté. Et en revanche, toutes les plateformes et toutes les entreprises qui se digitalisent ont intérêt à l'occulter.
Le travail ne disparaîtra jamais. En même temps, ce qui est à risque, ce qui est en péril, est l'emploi. Et donc, c'est pas une bonne nouvelle.
Le travail ne disparaît pas, mais l'emploi, et vous le dites, probablement le salariat. On est peut-être sur la fin de l'ère du salariat. Comment est-ce que le sociologue que vous êtes regarde la manière dont on va pouvoir ou devoir même repenser le travail, et notamment pas l'emploi, parce qu'on parle souvent d'emploi et rarement de travail.
C'est le moment justement où j'arrête d'être sociologue et je dévoile mon âme citoyenne et je propose trois pistes pour des issues possibles de ce système de mise au travail de l'humain pour servir la machine. Et les trois pistes sont: la première serait une forme de resyndicalisation, donc finalement pour certaines formes de travail, il est même envisageable, pensez Uber et Deliveroo, de venir à des formes de protection sociale classiques. Deuxième serait de créer ce qu'on appelle des plateformes coopératives, donc de changer complètement la structure de la propriété privée qui régit actuellement les plateformes.
Transposer une plateforme comme Facebook et en essayer d'en créer, promouvoir une nouvelle qui serait coopérative.
Et la troisième serait par contre de réfléchir à ces plateformes comme des communs. Donc finalement des ressources communes. On pense par exemple à ce qu'on appelle les communs environnementaux, donc considérer par exemple les données comme si elles étaient une richesse commune qu'on peut redistribuer, dont la richesse peut être redistribuée selon des modalités nouvelles.
Évidemment, on retombe toujours sur la donnée, c'est le nerf de la guerre de ce siècle à venir. Merci beaucoup Antonio Casilli d'avoir été avec nous en ce début d'année 2019 avec ce livre En attendant les robots, enquête sur le travail du CLUC. Il est paru le 3 janvier, c'est dans la collection La couleur décidée au Seuil.
Le temps de vous recommander un article, petit clin d'œil numérique, Ears Looking at You, ça rappelle quelque chose, Casablanca, un papier de David Owen dans le New Yorker qui s'intéresse aux enjeux et aux débats de la reconnaissance faciale. Nous ne sommes qu'au début des capacités technologiques en la matière, et c'est d'autant plus que les caméras seront partout, même quand on ne le sait pas. Elles sont déjà sur chacun de nos téléphones et de nos ordinateurs, elles seront dans les voitures autonomes, et il existe déjà 200 millions de caméras dans les seuls espaces publics en Chine. Ce que décrit l'article est à la fois fascinant en termes de prouesse technologique et inquiétant, car nous allons vraiment vers une société orwellienne. Ears Looking at You de David Owen dans le numéro de fin décembre du New Yorker.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h passées de 13 minutes, ce soir on s'intéresse au géant chinois des télécoms Huawei sur France Culture dans le club de la presse numérique. Et pour en parler, je reçois Emmanuel Paquet de L'Express qui est resté avec nous et Romain Pigenel, ancien conseiller à l'Élysée et partenaire chez Futur au pluriel.io. Alors Huawei, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, encore que vous avez sans doute ou peut-être un téléphone de cette marque. Pourtant, l'entreprise est le second constructeur mondial de smartphones derrière Samsung, mais devant Apple et ses iPhones. L'autre activité clé de l'entreprise, c'est de vendre des réseaux de télécommunications aux opérateurs. Or, en 2019 pourrait être l'année du début du déploiement de la 5G et Huawei est en lice pour opérer sur le marché français. Depuis quelque temps, cependant, l'entreprise chinoise est accusée d'espionnage par plusieurs acteurs occidentaux. Huawei entre espionnage et guerre technologique avec les États-Unis, c'est le sujet de ce club de la presse. Emmanuel Paquette pour commencer ce débat.
Oui. Oui, effectivement, Huawei, alors, comme vous le disiez, c'est un acteur de télécom qu'on connaît depuis longtemps. Il était spécialisé dans l'infrastructure de réseau au départ, c'est-à-dire c'est lui qui fournissait ce qu'on appelle les DSLAM, alors pour pas être trop technique, mais c'est la manière aujourd'hui de doper le réseau de cuivre que vous avez à la maison, votre réseau téléphonique, pour avoir de l'internet à très haut débit. Et puis après ça, ils sont passés sur la fibre optique, et puis petit à petit, ils sont sortis de l'infrastructure pour arriver sur les terminaux. Donc aujourd'hui, le grand public les connaissent plus, effectivement, pour les téléphones, les smartphones, qui sont vendus par millions, centaines de millions, ou dizaines de millions, un peu partout sur la planète. Alors c'est une société qui a été montée et créée par un général, un ancien général de l'armée chinoise, ce qui aujourd'hui en fait fait penser à plusieurs États, dont les États-Unis, mais d'autres pays ont suivi, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et très récemment le Japon, qu'il y aurait des liens assez puissants et assez forts entre cette entreprise de télécommunications et le pouvoir chinois, puisque d'une part cette société n'est pas cotée, donc on n'a pas accès directement à ses comptes, même si elle publie son rapport annuel chaque année sur son site, et les salariés sont également intéressés au capital. Mais cette société reste quand même assez opaque dans son fonctionnement. Et certains services de renseignement sur la planète estiment que dans tout le matériel Huawei qui serait vendu sur la planète, il y aurait de ce qu'on appelle des backdoors, ce qu'on appelle en fait des portes dérobées, c'est-à-dire des portes cachées, à travers lesquelles le gouvernement chinois et ses services de renseignement pourraient accéder à distance à des données partout où Huawei a pu vendre des systèmes d'infrastructures de réseau, que ce soit pour la 4G ou la future 5G dont on vient de parler.
Robin Piginel.
Oui, ben alors effectivement, il y a le sujet des backdoors. Il y a aussi le doute ou l'idée justement que ces grandes entreprises chinoises, qui sont un peu dans un complexe, qui ressemblerait à ce qu'on appelait avant le complexe militaro-industriel, sont très très liées à l'État et ne seraient pas en capacité, même parfois juridique, de résister à des demandes d'informations sur les flux d'informations qui traversent. Et puis un troisième sujet qu'on a vu en France et qui a aussi été critiqué, c'est que, mais comme d'autres entreprises, on pourra en reparler, elles essaient aussi justement de faire un peu, je dirais, de la prédation intellectuelle, de brevets, et donc de monter des partenariats avec les centres de recherche, avec les universités, dans des conditions. Alors je ne sais pas si ça a été vérifié, mais en tout cas, ça a souvent été accusé de proposer des contrats très léonins, très draconiens aux entreprises, enfin aux universités européennes, et d'obtenir, par exemple, de la recherche sur les infrastructures en échange d'exclusivité, de récupération totale de tous les droits intellectuels. Donc, il y a aussi l'idée qu'il y a une espèce de prédation intellectuelle qui aurait lieu. Moi, je crois que ce sujet il est intéressant parce qu'il est finalement emblématique de trois thématiques qui sont très fortes dans le numérique et la géopolitique numérique. Actuelle. Il y a d'abord effectivement le retour de toutes les suspicions d'espionnage industriel, et ça va même au-delà aujourd'hui, puisqu'avec le basculement d'une société, d'une économie de la data, où il y a de plus en plus de sujets de confiance et effectivement aussi de communication étatique importante qui sont basculés sur les réseaux, il y a cette problématique qui va être de plus en plus forte. Il y a derrière la résurgence d'une espèce de guerre froide 2.0, pour prendre un terme qui veut un peu tout et rien dire, mais qui est quand même vrai, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant quelques années, on a entendu dire finalement le numérique, ça va être la disparition des États, on va avoir maintenant des GAFA qui sont plus forts que les États, qui les surpassent. Mais ce qui revient au bout du compte, finalement, c'est l'adossement, j'avais pris tout à l'heure à dessein le terme de complexe militaro-industriel, de grandes puissances économiques qui ont leurs propres géants industriels numériques et qui se font face les uns contre les autres. Alors on a, à partir de ça, des diplomaties d'influence à coup de décrets, d'interdiction d'infrastructures, avec quand même, et ça c'est le troisième point le plus inquiétant, là-dedans, une Europe qui semble bien isolés entre deux blocs américains et chinois, avec chacun leur puissance juridique, économique, leur géant, et nous, entre les deux, à essayer de se battre avec nos petits bras. Et ça, c'est le troisième sujet, c'est celui de la souveraineté numérique, et notamment celle de l'Europe numérique et technologique entre ces nouveaux géants de cette nouvelle guerre froide.
Alors, dans l'actualité, Emmanuel Paquette, il y a aussi, et c'est évidemment ce qui nous amène à en parler ce soir, et qui montre que, d'une certaine manière, la guerre est déclarée, l'arrestation de la directrice financière du groupe, donc, en l'occurrence, concernée. Elle s'appelle Meng Wanzhou, elle est également la fille du PDG, elle a été arrêtée au Canada, et donc là, on a vu d'une certaine manière la bataille entre les États-Unis, ou en tout cas entre le monde américain du Nord et la Chine, se concrétiser.
Oui, effectivement. Alors, elle était en transit à Vancouver, au Canada, lorsqu'elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée par le Canada, mais à la demande des États-Unis, qui veulent qu'elle soit extradée sur le territoire américain. Alors, ce qui lui est reproché en tant que directrice financière, c'est d'avoir vendu des systèmes d'infrastructures de réseau à l'Iran. Et aujourd'hui, les États-Unis interdisent la vente d'infrastructures de réseau.
Pour contourner l'embargo américain.
Ouais. C'est ça, exactement. C'est quand même disons des soupçons qui pèsent sur Huawei depuis un certain temps. À plusieurs reprises, la société s'en est défendue en disant que c'était absolument faux. Il se trouve trouve que l'administration américaine aurait trouvé un espèce de fauné, une entreprise par laquelle Huawei serait passé pour effectivement vendre du matériel sur le territoire iranien. Donc derrière, la réaction a été une réaction assez forte, notamment de Huawei, mais aussi du gouvernement chinois, qui a demandé tout de suite des explications.
Convoqué les ambassadeurs américains et canadiens.
Donc d'un problème d'entreprise, on est passé à un problème d'État à État, pour le coup. Donc c'est ce que disait un petit peu Romain tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière, en fait, Huawei, on voit bien qu'il y a des liens puissants avec le gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois a demandé à ce que Meng soit relâchée immédiatement et qu'elle puisse repartir en Chine, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Elle a été relâchée sous caution, mais elle est toujours sur le territoire canadien. Et donc, il y a eu un peu
montée d'adrénaline
entre les deux pays. Et derrière ça, les marchés financiers ont chuté lourdement, puisque comme il y a aujourd'hui des négociations en cours entre la Chine et les États-Unis pour le commerce, dans le commerce mondial, ces tensions autour de l'industrie des télécoms laissent craindre une guerre commerciale beaucoup plus forte entre la Chine et les États-Unis.
Alors sur ce débat, il y a évidemment, c'est une sorte d'illustration de la guerre technologique. On sait que les États-Unis imposent depuis juillet des sanctions douanières aux importations chinoises. Et nombre d'observateurs jugent que la principale crainte des États-Unis est en fait l'avance technologique que prendrait la Chine dans un certain nombre de secteurs, notamment les télécommunications, en utilisant des moyens qui parfois ne sont pas conformes aux règles du commerce international. Romain Péginel.
Déjà, il y a toute évidence un rattrapage chinois qui est en cours. Alors, il était probablement inéluctable, mais quand on regarde les chiffres, alors sur l'économie, je pense que de manière générale, il me semble que maintenant il y en a à peu près un niveau d'égalité. Quand on regarde, par exemple, l'investissement sur tout ce qui est dépenses en recherche militaire, les États-Unis sont encore devant. Je crois qu'on est sur un rapport de 1 à 11. Sur les brevets, pareil, je crois que c'est sur la technologie chaque année, on est sur un rapport de un peu plus de 10 000 côté américain à 2 000 côté chinois. Mais quand on regarde les courbes, ce qui est évident, c'est que ça va de manière inexorable vers un rapprochement, si ce n'est un croisement. Et déjà, j'ai vu passer ce chiffre qui m'a étonné, peut-être que Manuel Paquette pourra corriger le cas échéant, mais quand on regarde la fabrication d'appareils électroniques dans le monde, je crois qu'on est à 89% d'appareils qui sont fabriqués par les Chinois. On voit aussi toute l'avance qui est prise dans l'industrie spatiale, etc. Donc, de toute évidence, et encore une fois, simplement application de la loi des grands nombres, parce que énorme marché intérieur, parce que main-d'œuvre à bas prix, ça change peut-être, mais qui a permis au moins une phase d'amorçage à ces géants économiques de partir très vite avec un gros avantage industriel. Je ne veux pas dire pillage de brevets, mais en tout cas une vraie réelle politique par rapport à ça.
Voilà. Copie de brevets.
Et puis une puissance d'investissement qui est colossale. Donc quand vous mettez tout ça au bout à bout, ça ne peut aller que dans le sens, effectivement, à moyen terme, si ce n'est en tout cas d'un dépassement, d'un rattrapage et évidemment d'une réaction dure des États-Unis. Parce que par ailleurs, vous parliez donc de ce qui s'est passé avec la numéro 2, je crois que c'est ça, de Huawei. Mais les États-Unis n'hésitent jamais à justement faire avancer en même temps appareil judiciaire, appareil économique pour mener une guerre économique. Et je crois que dans les dernières années, contre les seuls pays, les entreprises européennes, c'est 20 milliards d'amendes qui ont été par exemple infligées par les États-Unis sur des procès relatifs soit à des accusations de commerce avec des pays interdits, donc Iran, Cuba, etc., soit sur des accusations de corruption en utilisant un dispositif complexe d'extraterritorialité qui permettent à la justice américaine de poursuivre des entreprises étrangères, y compris pour des faits qui n'ont pas eu lieu, tant qu'elles utilisent des fonds américains et technologies américaines, etc.
Dollars américains.
Voilà, absolument. C'est ce qui est arrivé en l'occurrence à Alstom. C'est aussi ce qui est arrivé à BNP pour commerce avec l'Iran. Donc, on voit bien qu'il y a encore une fois un pays en plus qui est prêt, et avec Trump encore plus, à utiliser tous les méthodes, je dirais, qu'elles soient économiques, juridiques, diplomatiques, pour mener une guerre, je dirais, extrêmement résolue à tout ce qui pourrait sembler remettre en cause son hégémonie.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors, et l'autre problématique concernant Huawei, c'est qu'avec la 5G, dont on parlait précédemment, c'est une technologie qui va aller bien au-delà de simplement des télécommunications, comme on peut le voir aujourd'hui, puisque la 5G va ouvrir des nouveaux espaces, notamment pour la téléphonie mobile, mais ça, c'est ce qui était déjà le cas avec la 4G et la 3G, mais également la voiture connectée, la voiture autonome, avec l'Internet des objets. Et c'est-à-dire que qui maîtrisera ce réseau-là? Cette technologie-là maîtrisera l'ensemble des objets qui y seront connectés indirectement, ce qui fait craindre effectivement aux services de renseignement la mainmise sur énormément d'objets, énormément de données qui vont transiter dans ces objets-là, et la possibilité d'espionner à peu près n'importe qui, n'importe quand, si d'aventure Huawei le fait. Alors dernière petite chose quand même, Huawei, ils ont dit qu'ils étaient traités de manière totalement injuste par les autorités américaines et plusieurs pays dans le monde, et ils ont dit de toute façon... Et pour le coup, ils n'ont pas totalement tort. C'est comme si vous vouliez jouer un match de NBA avec la 5G, hein, sans avoir de star vedette. au sein de votre équipe. Aujourd'hui, Huawei, c'est pas simplement un copycat qui fait des technologies relativement peu chères. Ils sont en avance technologique sur leurs principaux concurrents, qui sont Nokia, qui est maintenant à moitié finlandais, à moitié français, à moitié américain, après l'absorption d'Alcatel-Lucent, et le suédois Ericsson. Et c'est vrai que Huawei est largement leader par rapport à ces deux Européens-là. Et du coup, c'est difficile de les rattraper. Ils ont une force de frappe qui est faramineuse. Ils font plus de 100 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui.
Et ils ont un marché qui est d'ailleurs très européen.
Oui, c'est-à-dire qu'ils font 50% de leur chiffre d'affaires en Chine et 27% en Europe et au Moyen-Orient, qui est leur deuxième bassin de croissance.
Donc au fond, les États-Unis n'est pas la priorité pour eux.
Ça n'a jamais été vraiment leur priorité. Ils n'ont jamais réussi à pénétrer le marché américain, justement à cause des restrictions du gouvernement américain sur la vente de matériel Huawei.
Zoé 16.
On est sur un espèce de partage du monde. Les Américains n'ont pas réussi à pénétrer le marché chinois, notamment en termes de communication et d'internet, parce qu'il y avait cette fameuse muraille de Chine théoriquement politique, mais qui a en fait permis quand même une émergence de grands champions économiques comme ça. Est-ce que aussi la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est celle finalement d'une inversion première grande inversion de l'hégémonie en faveur des Chinois? Comment est-ce que, par exemple, l'Europe, dans cette espèce de combat entre les deux, vous paraît ou pas pouvoir vaciller à tous les deux?
Romain Pigenel.
Dans les années qui viennent.
Au fond, quelles répercussions pour la France?
Qui aujourd'hui dépend quand même, qui est beaucoup plus pénétrée par des géants plutôt américains.
Je crois que le problème, c'est comme toujours, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a la technologie? On a peut-être l'argent, mais le fait est que Emmanuel Paquet le disait tout à l'heure, typiquement sur un sujet aussi crucial que celui des infrastructures 5G, a-t-on la capacité industrielle en Europe pour équiper tous les providers justement de 5G avec du matériel européen sûr, etc. Je crois que la réponse, elle est non. Donc à partir de là, on a un vrai sujet. Et je crois que le problème, si on remonte un peu en amont, alors on a aussi nos armes. On a nos armes, nous, qui sont des armes de régulation, etc. Sur un sujet un peu éloigné, on a vu avec le RGPD qu'on était en capacité avec du soft power, avec de la puissance un peu faible, d'arriver malgré tout à mettre en place
un peu faible.
Des cadres normatifs.
Même, tout le monde s'est dit, on a quand même essayé, on rentre dans la bataille avec des petites armes 40 ans après, comme si on débarquait. Comment est-ce qu'on peut justement regarder? On n'a pas réussi à avoir des leaders hégémoniques européens. On s'est quand même complètement fait pénétrer par des acteurs américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on va rester du côté des Américains? Est-ce qu'on peut être pénétré aussi par des Chinois? Est-ce que c'est l'occasion potentiellement d'avoir des leaders européens? On a l'impression que non.
C'est-à-dire qu'il y a déjà des leaders européens. Un Spotify aujourd'hui, c'est quand même un leader européen du numérique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et par ailleurs, sur l'infrastructure réseau, il faut savoir qu'aujourd'hui, les opérateurs chinois, il y en a trois seulement pour un marché d'un milliard et demi de potentiels abonnés. On est quasiment à 950 millions d'abonnés au téléphone mobile en Chine, donc c'est un marché qui est gigantesque. Et pour trois opérateurs qui s'équipent en Huawei, effectivement, mais ils s'équipent aussi en Alcatel-Lucent, enfin ex-Alcatel-Lucent, en Nokia et en Ericsson. Donc parce que les Chinois sont pas plus bêtes que les autres, ils veulent pas protéger leur marché parce qu'ils savent que s'ils protègent totalement leur marché, ils pourront pas exporter. Donc ils sont quand même obligés de s'ouvrir justement aux technologies européennes et aux technologies américaines. La question est de savoir quel est le ratio entre ce qu'on fait nous-mêmes, enfin entre guillemets en Chine, et ce qu'ils exportent, ce qu'ils importent en termes de technologie qui vient de l'extérieur. Et l'idée est de savoir aujourd'hui aussi ce que veut l'Europe. Est-ce que pour l'Europe, il est important de sécuriser ses réseaux de télécommunications avec des technologies européennes? Et aujourd'hui, force est de constater qu'il en existe relativement plus ou peu, avec Ericsson et Nokia qui sont relativement faibles face à Huawei. Et donc c'est quasiment une partie déjà perdue.
Romain Pigenel, le mot de la fin.
Après, il faudrait, je pense aussi, pas tomber dans une sinophobie caricaturale, parce que c'est vrai que ça rappelle aussi un peu, comme disait Emmanuel Paquet, est-ce qu'il y a des preuves patentes, etc. Et il y a aussi d'autres espionnages avérés, d'autres fuites de données qui viennent de géants bien américains. Et la question, c'est aussi celle, justement, de l'éducation, aussi, je dirais, du personnel politique. On sait que Huawei a été accusé, peut-être, dans les voitures connectées, est-ce qu'il peut y avoir des fuites de données, etc. Mais les chauffeurs officiels ont toujours permis d'être la première source de taupes et d'informations. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une vision de hauteur. Il n'y a pas des méchants chinois, des gentils américains. La question, c'est que fait l'Europe face à deux géants qui sont en capacité de prendre en étau.
On reviendra sur ce sujet dans une émission Soft Power qui sera entièrement dédiée à la bataille entre la Chine et les États-Unis sur le numérique. Ça nous permettra de recevoir d'ailleurs, de revoir notre ami Pierre Aski. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Dimanche prochain, on parlera de Pôle emploi à l'ère numérique, des clics et des claques, on pourrait dire. Dans un instant, Carbone 14, demain matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer sera l'invité des matins de France Culture à ne pas rater. Donc, merci à tous, merci Emmanuel Paquette, Romain Pigenel, Zoé Sfez, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.